son danza. Tinhas ele bem logo, ainda fila solunda. Dun Diana, choco son vila.
Our fella walks alone through your lens and your ears. He was born to do so, so that no one would interfere. Fella being made of hands, flesh and wood, though he needs people to swarm around him every time he would make his chords swing deep inside his heart. And Nostrum fellow isn't someone you can even stop walking. Sazina.
Concia de soy bla, minda la chinka, desde clean de colvo, o sumba limsa. Tinha celebre en blogo, tinda fela solunda, dun Diana, choco sambila.
I'm walking and feeling the scratch on my dreams. I fight against the sweetened disease. I need, I feed, I love and breed. Spread it all over again. You're dancing for your star, it shines above your eyes, hoping the light would spread and break the gates of your devoted mind for it to bring you out of this world around. But your sweet mother first fella, you have to bring her down.
Concha de soy bla, minda la chinka, desde clean de corvo, o funda lamsa. Tinha celeb en blodo, tinda fella solunda, dun Diana, choco sandila.
Made of gold and silver, the men behind the line will offer you some slivers of so many lies hidden behind the trees. Then you'll be walking through the desert to feed up your disease.
Concha de soy bla, minda la chinka, desde clean de cuadro, o funda lanza. Tinha sed en blogo, tinda fella solunda, dun Diana, choco son.
In my dreams, I fight against the sweet disease. I need, I feed, I love and breathe and press until stress grows mean. I'm walking and feeling they scratch my dreams. I fight against the sweet disease. I need, I feed, I love and breathe it out and just spread it all over again. Dancing like a cat and wiggling like a snake. No one can bring you down, no one will ever break your neck. 'Cause underneath this pure stainless skin lives a humble monkey with the heart of a king.
On coupe le micro.
Allô.
On cesse les interférences et on commence à résonner.
Polynésie. Calmement.
Bonsoir. Vous êtes bien sur la clé des ondes 90.10 et c'est l'émission Achaïra qui n'a ce soir que 4 minutes de retard. Bonsoir les invités, bonsoir les présents. Alors.
Oui, bonsoir Flora.
Nadège.
Denis qui.
Oui.
Isabelle.
Philou, bonsoir aux auditeurs.
Phil. Et André, qui se félicite d'avoir d'être en avance sur le retard habituel.
Alain.
Et François.
Bien. Donc, on commencera l'émission ce soir par les éphémérides. Ensuite, nous avons Isabelle qui revient nous rendre visite.
Encore ?
Elle aime ça. Ben oui, elle a plein de projets et là, elle vient nous faire partager un de ses nouveaux projets suite à la pièce qui avait été montée à Bordeaux Nord, la pièce qui s'appelait « En suivant Emma ». Voilà. Donc, on commence de suite par les éphémérides. Je crois que c'est Nadège qui nous amène en 1817.
Alors, le 26 janvier 1817, naissance de Jean-Baptiste Gaudin à Esquéhéry, commune de Picardie. Penseur socialiste utopique, fouriériste, fondateur du Familistère de Guise. Fils d'un artisan serrurier, il effectue son apprentissage dans l'atelier paternel et suit des cours du soir. De 18 à 20 ans, il accomplit avec un cousin son tour de France. C'est là qu'il prend conscience de l'exploitation du travail et de la condition aliénante et précaire du travailleur qui n'a que sa force à louer et se jure de faire le bonheur de la classe ouvrière. En 1840, il se lance dans la fabrication de poêles et fourneaux en fonte, remplaçant la tôle jusque-là utilisée. Le succès est au rendez-vous. Il emploie alors quelques ouvriers. Militant républicain, socialiste et anticlérical, influencé par les idées de Phalanstère chères à Fourier, dont il découvre les idées en 1842, il n'aura de cesse, le succès aidant, d'adapter et de mettre en pratique ses théories. En 1843, il adhère à l'école sociétaire phalanstérienne, et correspond avec Victor Considérant. En 1848, il est candidat malheureux à l'Assemblée constituante. Ses idées étant suspectes aux autorités après le coup d'État de Bonaparte, il ouvre en 1854 une succursale à Laeken-les-Bruxelles, en Belgique, pour se prémunir d'un possible exil. Après avoir acheté un terrain à Guise, dans l'Aisne, en 1846, il va, à partir de 1859, concrétiser son rêve de construction du Palais Social, ce vaste ensemble architectural qui prendra le nom de Familistère, le Palais des Familles, devait offrir, par l'habitation unitaire, la satisfaction de tous les besoins de la vie humaine avec le minimum de frais et le maximum d'avantages. L'ancêtre des HLM peut-être. Il comptera jusqu'à 500 logements et regroupera progressivement autour de l'usine Nourrisserie et Pouponna en 1862, Economa en 1865, Théâtre et École en 1869, Buanderie 1870. L'entreprise compte 900 employés en 1867. En 1871, devenu maire de la ville de Guise, il est élu député à l'Assemblée nationale et expose ses idées dans l'ouvrage « Solutions sociales » qui sera publié pendant la Commune de Paris. Les deux ailes du Familistère sont achevées en 1879. Après avoir créé la revue Le Devoir, en 78, la Société du Familistère de Guise, association coopérative du capital et du travail, voit le jour le 13 août 1880. Elle durera jusqu'en 1868. Gaudin en sera l'administrateur jusqu'à sa mort. En 1882, le Familistère ne suffisant plus pour loger les ouvriers de l'usine, des bâtiments annexes se sont construits. Jean-Baptiste Gaudin s'éteint le 15 janvier 1888. L'entreprise poursuivra l'aventure symbolisée par le succès des poêles Gaudin avec 2500 employés en 1926 et maintiendra son statut coopératif jusqu'en 1968. En 1937, la célébration du centenaire de la mort de Charles Fourier aura lieu au Familistère de Guise. Aujourd'hui, le Familistère, qui est classé monument historique, se visite et un banquet de l'utopie y est organisé chaque 1er mai. Ce n'est pas la réalisation du bonheur que j'ai inauguré, ce n'est que l'allègement aux souffrances de la classe ouvrière, écrit Jean-Baptiste André Gaudin dans une lettre en 1866, après la construction d'un premier bâtiment du Familistère. Et voilà, à vous.
Merci. Une concrétisation.
Donc, on poursuit les éphémérides.
On poursuit les éphémérides avec... et on se retrouve en 1911 au Mexique. Ça vous dit quelque chose? Vous pensez à qui? À Pancho Villa? À Zapata?
À Flores Magón.
Bien!
Une bonne élève!
Non, mais je me sentais.
Alors, un abonnement à Tierra El Libertad.
Le 29 janvier 1911 au Mexique, en Basse-Californie, c'est l'offensive du Parti libéral mexicain de Ricardo Flores Magón, mouvement révolutionnaire libertaire qui a pour devise Tierra Libertad. La ville de Mexicali est conquise sous la conduite de Simón Berthold et de José María Leyva. La révolution s'étend aux autres provinces du Mexique, les magonistes et des parts de nombreux internationalistes auxquels se joignent des membres de l'IVV. L'IVV, c'est un important syndicat américain, un syndicat qui avait des pratiques d'action directe. Donc, avec des membres de l'IVV, donc, les magonistes vont faire vivre pendant 5 mois la commune de Basse-Californie, c'est-à-dire une véritable expérience de communisme libertaire. Abolition de la propriété, travail collectif de la terre, formation de groupes de producteurs. Cela va durer 5 mois, effectivement, puisque le 6 juin 1911, Francisco Madero, qui est un opportuniste, révolutionnaire, mais surtout opportuniste, grâce à l'appui du gouvernement américain, envoie des troupes dans l'État de Basse-Californie pour y écraser l'expérience de la commune libertaire, qui avait débuté donc le 29 janvier, par la prise de Mexicali, suivie de celle de Tijuana. Créée par les partisans magonistes du Parti libéral mexicain et aidée par les anarcho-syndicalistes de l'IVV. Le 22 juin, donc, après 5 mois très féconds, les magonistes seront mis en déroute à Tijuana. Pris au piège, ceux qui rechercheront refuge aux États-Unis seront arrêtés par l'armée américaine. Cette révolution libertaire, mal connue, sera éclipsée par les révoltes de Villa et Zapata, dont on connaît mieux les exploits.
Bien, nous poursuivons le voyage et nous rapprochons de... du 20e, même nous sommes dans le 20e avec la naissance de Germaine Greer à Melbourne le 29 janvier, c'est en Australie. Elle est écrivaine, scénariste, anarcho-féministe et donc australienne. Elle effectue des études universitaires à Melbourne, puis s'installe à Sydney où elle commence à fréquenter le milieu de la contre-culture australienne. Et en particulier, les anarchistes partisans de la révolution sexuelle. Elle préconise une entière liberté sexuelle pour les femmes et s'attaque au mariage et à la famille. Après avoir obtenu une thèse sur Byron, elle obtiendra son doctorat à l'université de Cambridge, Angleterre. En 1970, elle entame avec la femme eunuque, donc le titre, d'un ouvrage, d'un roman, et qui deviendra très vite un best-seller international. Et elle entame également une carrière d'écrivaine féministe engagée. En 1997, Christine Wallace lui a consacré une biographie qui s'intitule « Greer, la musaraigne adoptée ». Si, alors, je vais citer une parole, en quelque sorte, de Germaine Greer. Si nous étions sexuellement libérés, il n'y aurait pas de président, de police, de bidule, de gouvernement. Le premier devoir d'une femme libérée est d'inventer la forme de sa révolte individuelle, celle qui exprimera le mieux sa propre indépendance et son originalité. Avant tout, les femmes doivent refuser de s'engager dans des relations sanctionnées par la société, telles que le mariage. Voilà. Pour donc Germaine Greer. Et
le matin quand j'ai cassé la croûte, je pouille ma blouse, je prends mon autosio et mon bézouet, et puis en route, je m'en vais comme un pauvre sautesio, en traînant ma vieille patte kirchi, à force d'aller par mon parvio, je m'en vais piocher mon quartier de vigne, qui est à côté du champ de navio. Là-bas, tandis que je m'esquinte à racler l'arbre autour des sangs, que je suis, que je souffle, que j'ai, que je quinte pour gagner le bout de pain que je n'ai pas, je vois souvent passer dans la semaine des tas de gens qui braillent comme des vieux. C'est un pauvre bougre que l'on emmène pour l'entarrer dans le champ. J'en ai-tu vu depuis le temps que je pioche, j'en ai-tu vu de ses entarements, j'ai vu passer sti du petit mioche et sti du vieux de 80 ans, j'ai vu passer sti de la pauvre fille et sti des pocos bourgeoisiaux. Estidez ceux de toute ma famille qui dorment à cette heure dans le champ de navio. Et terre tout, elle pèse en coume, elle riche tout comme elle pauvre présent. On les a mis à plat sous le friche, c'est vu que du fumier apaisant. Mon feumier qu'en graisse ma tare et rend meilleur les vins nouveaux. V'là ce que c'est que d'être propriétaire d'un vignon contre elle chante la faux. Après tout, faut pas tant que je blague. Marie, tout ça, la vie c'est un arbre qu'on élague, et je serai la branche que la mort frappe. Je passerai un vieux soir calme et digne, tandis que chanteront les petits moignons, et quand qu'on me trouvera dans ma vigne, on m'emportera dans le champ de navio.
Voilà, un petit clin d'œil à ce chanteur très connu, n'est-ce pas ? Vous avez tous reconnu Bruno Daraki qui interprétait le chant de Navio, un texte de Gaston Couté. Donc, bien ce soir, nous accueillons Isabelle, que nous avions déjà donc accueillie l'année dernière pour la pièce « En suivant Emma ». Alors, quelle bête vous pique ?
L'année dernière, on était venu. Avant la première, je pense, avec voilà. Les jeunes. Donc, c'est les jeunes qui parlaient surtout.
Ouais.
C'est bon, ce soir, ils ne pouvaient pas être là. Donc, bonsoir à tous. Donc, je viens pour présenter le nouveau projet de la nouvelle pièce. Mais je voulais dire, c'est intéressant, les éphémérides, parce que vous avez parlé de Godin. Et moi, je l'ai visité, le Familistère.
Ouais.
Et notamment, Godin a remplacé l'église par un théâtre.
Ah.
Donc déjà,
ça t'a plus, hein?
Enfin, matière, c'est pas mal. Donc ça, j'avais bien aimé. Donc du coup, on va déjà parler d'abord en premier d'en suivant Emma, d'Owarzine. Et Owarzine, ouais. Qui nous a quittés aujourd'hui, 87 ans. Donc on a appris qu'il était mort aujourd'hui d'une crise cardiaque. Voilà, donc c'est quand même une grosse perte. Et donc du coup, on va continuer d'autant plus à jouer sa pièce en suivant Emma, donc qui est sur la vie d'Emma Goldman. On va rejouer le 27 mars au centre d'animation du Grand Parc. Et on partira le week-end d'après à Saint-Astier, à la Fabrique. C'est vraiment un lieu de théâtre. C'est le théâtre de Saint-Astier. Donc on jouera le 4 avril à Saint-Astier. Et ensuite, on a un projet avec les jeunes, parce que donc c'est quand même les jeunes qui portent ce projet. du quartier et des alentours, pour partir à Paris sur fin 2010, en octobre. On avait éventuellement émis l'idée d'aller à Jolimôme, mais on est plus peut-être maintenant avec le Théâtre du Fil, qui est un théâtre de réinsertion, qui a été monté dans les années 70 par des éducateurs de rue, des éducateurs prévention judiciaire de la jeunesse, qui à l'époque avaient fait ouvrir les centres fermés, et qui aujourd'hui, malheureusement, referment ces centres. Voilà. Donc on va faire un échange avec eux, parce qu'ils font toujours de la réinsertion pour les jeunes à travers le support théâtre, et c'est une alternative à la prison. Donc c'est pas trop dans l'air du temps. Voilà, donc on va aller normalement jouer chez eux en octobre. Donc Emma Goldman va être représentée à peu près au moins trois fois cette année. À savoir, c'est quand même un gros travail parce qu'on est donc il y a 15 comédiens plus une dizaine de personnes choristes de la chorale Le Cri du Peuple. Donc il faut bouger tout ce petit monde, et à savoir que partir, c'est des frais, c'est de l'hébergement, c'est du transport, c'est... Donc le collectif Bordeaux-Nord est encore aujourd'hui une association subventionnée, je le dis, parce que voilà, on est quand même soutenu par le développement social urbain. Et ça permet de entre autres, mais il y en a d'autres aussi, ça permet quand même de monter des projets et de faire participer des gens gratuitement à ces actions. Donc ça, c'est très important, sinon on n'aurait pas ces jeunes avec nous. Voilà, donc on recherche là les financements pour pouvoir les emmener à Paris. Je pense que ça va le faire. Encore en 2010, ça sera peut-être la dernière année. À chaque fois on dit ça, mais donc on a un peu la tête dans le guidon, dans les dossiers, etc. Ça, c'est la partie moins sympathique, mais qui est obligatoire. Donc on crée aussi donc une nouvelle pièce par biais collectif Bordeaux-Nord. Donc le collectif Bordeaux-Nord, c'est une association loi 1901. Les membres fondateurs sont le centre social Bordeaux-Nord et la boîte à jouer. Ça, faut pas oublier, parce que c'est des gens qui travaillent sur ce quartier depuis très très longtemps. Et on a quand même ici un réseau associatif très important sur ce quartier, qui reste un quartier populaire, ouvrier. Et il y a une histoire, quoi, qui est là, et que nous, on en a hérité, quoi. Donc, le collectif Bordeaux-Nord, pour la 7e année, reconduit cet atelier théâtre, Quartier en or. Et le thème cette année, c'est les sans-papiers, l'immigration, bien sûr, les sans-papiers. C'est un sujet qui, de toute façon, intéresse tout le monde, tout le monde, toutes les structures avec lesquelles on est partenaire, parce qu'il y a deux membres fondateurs, mais on bosse avec beaucoup d'associations de quartier, des associations de femmes, des associations de jeunes, les amicales laïques, les centres sociaux, centres d'animation, on a au moins une cinquantaine de partenaires, des associations de femmes sur les aubiers, et il y a beaucoup, il y a ici une population très mélangée, où on est très concerné par ce problème, parce qu'il y a des cours notamment d'alphabétisation, de langue étrangère, et qui d'ailleurs vont peut-être disparaître parce qu'il n'y aura plus d'argent non plus pour ça dans le social. Et bien sûr, le problème des sans-papiers se pose. On est bien sûr tous dans le secret professionnel, mais je sais que je suis soutenue dans cette démarche par les centres sociaux de ce quartier, qui sont indépendants et qui de toute façon ne lâcheront rien, et il n'y aura aucune délation. Voilà, ça c'est très clair entre nous. On est là pour soutenir des gens et pour qu'ils puissent vivre ici avec nous. Donc, on va traiter ce thème. Donc c'est moi qui vais animer aussi à nouveau cet atelier cette année, avec quand même deux temps forts sur les vacances de Pâques. Deux temps forts sur les vacances de Pâques, où je vais faire venir une comédienne très professionnelle et un danseur. Un danseur et une danseuse, la compagnie L'Alternative, là, de la compagnie Fabre Sénou. À savoir que Norbert Sénou est un béninois et qui est très, très touché aussi par ces sujets, et qu'on retrouve d'ailleurs dans ses créations, sur ce thème de l'exil, de l'immigration. Voilà. Et quoi dire d'autre encore? J'ai quand même beaucoup lu, parce que je trouve intéressant de partir sur des textes d'auteurs, parce qu'on travaille avec des jeunes et des moins jeunes, des gens en difficulté qui n'ont pas forcément accès à la culture. Ça ne veut pas dire qu'ils sont débiles, hein, loin de là. Mais même si on voit encore qu'aujourd'hui les bibliothèques sont gratuites, les gens n'y vont pas forcément, parce que les livres, le théâtre, ils pensent toujours que c'est pas pour eux. Alors j'ai lu des choses, qu'on m'a donné des conseils de lecture, parce qu'on est en réseau avec des profs, avec plein de gens, puis il y a beaucoup de lecteurs aussi sur ce quartier quand même. Et j'ai lu Eldorado de Laurent Godet. C'est un livre extraordinaire. Vous pouvez le trouver chez Babel et j'ai lu en édition de poche. C'est un capitaine dans le sud de l'Italie qui va complètement changer de vie. Parce qu'il voit tous ces bateaux arriver de migrants et ils vont repêcher ces corps et ces gens qui sont soit déshydratés. Enfin, et donc ça se passe dans différents coins du monde. Il parle du sud de l'Italie, puis en parallèle, il y a deux jeunes qui partent du Soudan. Enfin, c'est vraiment poignant. On voit vraiment la traversée aussi entre le Maroc et l'Espagne. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, je pense qu'ici tout le monde le sait, parce que je sais que vous êtes militant, la police espagnole tire à balles réelles quand même sur les gens qui passent aujourd'hui en Espagne. Voilà, les migrants qui veulent passer en Espagne. Voilà, on s'est beaucoup documenté. On a été voir le jeune qui a écrit de Kaboul à Calais au Jean Eustache l'autre soir. Voilà, donc du coup, on va partir sur ces textes de Laurent Godet et aussi sur une pièce de théâtre de Xavier Duringer qui s'appelle Les Déplacés, qui parle plus de des jeunes issus de l'immigration. Donc ça sera porté par les plus jeunes, ce texte-là, parce qu'on se rend compte que sur nos quartiers, nos jeunes sont vraiment pas au courant de leur histoire, ou très peu, et que le racisme se transmet. C'est terrible, parce que ces jeunes qui sont issus de l'immigration, plus algérienne ou marocaine ou tunisienne, en majorité, pour beaucoup, on a aussi beaucoup, quand même aussi aujourd'hui, de l'Afrique noire, mais... ils ont, des fois, il y a des réactions assez étonnantes envers les Bulgares, les Roumains, les derniers arrivants, toujours. Et ça se transmet tout le temps. Donc, par le biais de ce support culturel qui est le théâtre, on va essayer d'avancer ensemble. Donc, moi, je sais, j'y crois, dur comme fer, oui, à ce support théâtre. Parce que là, c'est vraiment un outil d'émancipation. On l'a vu sur plusieurs jeunes et des moins jeunes. Ça fait du bien à tout le monde. Alors, c'est un sujet grave, mais on va essayer de prendre du plaisir. Parce que dans les ghettos, on peut rigoler aussi. Dans les camps de concentration, il paraît qu'il aussi y avait de l'humour. Alors, bien sûr, hein, c'est très dur de dire ça. Mais on peut aussi rire peut-être aussi de son histoire, par moment. Ça ne sera pas que des passages super graves et lourds. Voilà.
Eh bien, non. Quel programme. Et donc vous avez commencé à vous réunir, y compris avec les jeunes.
Alors, il y a cette année, la particularité, c'est qu'on mélange très jeunes et... Enfin, c'est ouvert tout public. Mais le noyau dur sera les jeunes. On aimerait faire porter les textes les plus forts par des jeunes, parce qu'on est quand même aidé aussi pour... intervenir sur des jeunes, donc il faut que c'est du sens, hein. On va pas faire les choses coûte que coûte pour qu'il y ait des jeunes et tout. Donc là, cette année, c'est assez rigolo parce qu'on a démarré il y a très peu de temps, on a pu démarrer qu'en janvier parce que on savait pas si on allait avoir des subventions, donc ça s'est débloqué. Et pour continuer ce travail. Et on a des petites qui ont 11, 12 ans, des préados. Et il faut savoir que les préados, c'est, pour ceux qui bossent dans le milieu social, c'est souvent la tranche la plus difficile. Quand ils commencent à avoir 15, 16, 17 ans, ils passent déjà à autre chose. Donc, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour transmettre des choses. Mais l'atelier va de 11 à 60 ans. Hein. Enfin, même s'il y a plus, là, je ne sais pas, je ne peux pas évaluer. Et c'est quand même des gens qui viennent par les réseaux associatifs, par foyer fraternel, l'amicale laïque du Paty, les centres sociaux... Tout le contact, tout ce réseau et tout ce lien qu'on a créé depuis des années et qui est là de fait depuis des années sur ce quartier. Donc on a des femmes qui sont seules, qui veulent venir faire du théâtre. C'est très mélangé. Donc après, on va voir comment on va répartir ces textes, comment ils vont pouvoir, ça va être des petits chœurs, des chœurs d'enfants qui racontent cette histoire. Donc je vais m'appuyer aussi sur Feu au centre de rétention, ce livre. Mmh. Voilà.
Et ce ne sont plus les acteurs dans Suivant Emma.
Il y en a trois. Sûr, mais ils sont super pris. Pour eux, ça a été déjà une très lourde charge l'année dernière. Il y en a plein qui sont en cursus, soit professionnel, etc. Il y en aura quelques-uns, mais ça ne sera pas la majorité de ceux d'Emma Goldman. Il y a aussi le problème de qu'on rejoue aussi cette année quand même Emma Goldman. Donc, ils vont être pris sur des week-ends de répétition. Et aussi, le noyau dur, enfin, Emma Goldman, c'est un noyau dur, mais ceux qui portaient les plus gros rôles, là, mais du coup, ça s'est débloqué pour eux, ils sont sur d'autres projets aussi ailleurs. Donc, mais ça, c'est super, c'est bien qu'ils aillent voir ailleurs aussi. Voilà. Donc, ça fait beaucoup pour eux, parce qu'il y en a certains qui sont quand même encore scolarisés, d'autres qui sont en recherche d'emploi, voilà.
C'est un succès, quelque part.
Je pense qu'on a eu des super retours. je suis pas très inquiète pour le 27 mars parce qu'on avait joué, donc on a joué deux fois la boîte à jouer. On a joué au centre fin juin, début juillet au centre d'animation du Grand Parc qui est déjà une plus grosse salle, il y a 150 places je crois à peu près, c'était plein. Donc du coup on a rejoué à la rentrée, enfin rentrée scolaire je parle, le 10 octobre à la salle Pierre Tachou. Alors là, ça par contre, je ne sais pas si c'est un succès, mais en tout cas on est bien contents. C'était pendant Evento. Bon, sans commentaire. Ce truc a coûté énormément d'argent à la ville de Bordeaux et que nous on est toujours en train de ramer pour... voilà. Et bien, pendant Evento, au fin fond de Bacalan, on a eu 155 personnes à la salle Pierre Tachou. Donc, parce que bon, j'ai dit là, c'est bon, on va épuiser tous nos publics, nos réseaux, parce que c'est quand même les parents, les amis, les copains, les machins, le réseau, quoi, associatif Bordeaux Nord, et puis tous les amis, les parents. Bon, j'ai dit là, la quatrième fois, c'est bon, il y aura plus de public, quoi. Moi, je m'attendais à ce qu'on fasse quelques entrées, enfin, quand même qu'il y ait un peu de public, mais pas autant. C'était plein. Donc je pense que pour le 27 mars au centre d'animation, on aura encore du monde parce qu'il y a plein de gens qui nous demandent pour venir, qui ont raté la pièce, parce que ce qui marche le mieux au théâtre et pour beaucoup de choses, c'est le bouche à oreille. Hein. Vous pouvez faire de la com comme vous voulez, des super... C'est le bouche à oreille. Je l'ai vu même sur des spectacles professionnels, quoi, enfin professionnels dans le sens où il y a des troupes qui vivent que de ça, notamment les compagnies qui passent à la boîte à jouer. Au début, il n'y a pas grand monde. Ça peut arriver sur des compagnies qui viennent d'ailleurs, et le bouche à oreille, et à la fin, on se retrouve la dernière semaine, c'est archi plein au théâtre. Donc ça, c'est notre meilleur com, c'est les gens, ce qui se raconte, etc. Moi, je pense que c'est le... on dépasse Internet. Voilà, donc, et après, à Saint-Astier, donc à côté de Périgueux, bon, on va faire marcher tous les réseaux, hein, là, et puis aussi là-bas, la salle de... Le spectacle va faire son travail de communication, donc on jouera un dimanche dans un endroit où personne ne nous connaît, c'est sûr. Mais pour eux, ça sera quand même une bonne expérience. Et puis, il faut qu'ils apprennent aussi qu'on peut aussi le théâtre, moi je leur ai toujours dit ça, on joue devant 10 ou 100 personnes, on joue. C'est bien, même si un jour il n'y a pas grand monde, c'est bon pour eux, c'est formateur, je trouve. Et puis c'est bien pour ne pas prendre la grosse tête, parce que le public, voilà, il n'y a pas de... quota, il y a pas de... Il y a 5 personnes, il faut jouer pour eux. Enfin, en principe, il y a une règle au théâtre, il faut qu'il y ait plus de monde dans la salle que sur scène. Mais bon, voilà. Donc, comme on est quand même... Ils sont presque entre 25, au moins 25 sur scène, il faut au moins qu'il y ait 25 personnes dans la salle.
Ce scénario va être évolutif, donc tu vas voir selon ce que ça rend, comment tu vas l'orienter.
Pour les sans-papiers?
Oui.
Non. Pour le moment, alors là, je pars vraiment sur le groupe, sur ce que sont les gens. Donc, je m'adapterai en fonction des gens. Par contre, s'ils ont des propositions, qu'ils arrivent aussi avec des textes qu'ils ont marqués, etc. Parce que le but, ça aurait été, et ça l'est déjà un peu, c'est de faire porter aussi la parole de peut-être de personnes qui ont vécu ça, mais qui peuvent pas la dire eux-mêmes, cette parole. Parce qu'ils se planquent, parce qu'ils ont honte, parce que c'est pas facile, parce qu'ils parlent pas bien français, parce que... Donc aussi, voilà, des témoignages, il y a du... Ben oui, de toute façon, ça c'est clair et net. Mais ça peut être aussi la parole d'amis, c'est-à-dire quelqu'un vient à l'atelier et a entendu sa copine qui a parlé de son histoire ou de son copain, ou les enfants qui racontent l'histoire de leurs parents. Donc je vais essayer... Bon, on aura... Faut savoir quand même que ça prend beaucoup de temps de répétition et donc voilà, on n'a pas, c'est pas extensible. Mais c'est pour ça que je voulais quand même m'assurer avec des textes d'auteur. Ça c'est la, voilà, c'est une assise. Mais après, le but, oui, c'est de faire sortir des personnes un peu leur ressenti par rapport à ce sujet, quoi. Et dans cet atelier, il y a quand même des gens qui sont concernés, quoi, qui ont toujours vécu sur ce quartier ou dans des quartiers difficiles, qui sont peut-être pas forcément issus de l'immigration, mais qui ont leurs copains, ou c'est des enfants. Bon, là, les petites, il y a des filles, c'est des petites filles, soit marocaines, ou voilà. Donc, c'est réussir à ce qu'ils puissent raconter. C'est pour ça qu'on part d'abord en improvisation, et puis après, on verra ce qu'on retient.
C'est presque une vocation à la fois pédagogique et thérapeutique, comme une catharsis un peu parce que ça va rejaillir sur les parents, sur le reste de la famille.
Alors,
espérons. C'est peut-être un peu trop ambitieux.
Non, par contre éducatif, oui, social et pédagogie. De toute façon, dans notre boulot, moi je mets en avant la dimension sociale avant l'artistique. Après c'est mais par contre, il faut qu'il y ait de l'artistique. Parce que il faut que ces gens puissent avoir accès à ça et on fait de la qualité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de culture au rabais, quoi.
justement, il faut que les artistes... Donc nous, le but, c'est de trouver des sous pour faire intervenir des artistes, vraiment, pour faire ce mélange, quoi. Donc voilà, c'est... Moi, je dirais plus éducatif, oui. Pour les jeunes, il faut qu'il y ait un peu un truc éducatif, ouais, quand même. Mais je suis pas prof, quand même, hein. Voilà.
C'est peut-être une histoire de transmission aussi, là. Une transmission de vécu, de... Voilà, qui les touche, de plus ou moins loin, mais qui les touche.
Moi, je dirais, par rapport à cette pièce, moi, je m'y suis intéressé en tant que membre d'associations qui s'occupe des... qui est très intéressé sur la situation des sans-papiers. Moi, ce qui m'intéresse sur ce projet, c'est qu'on sort du contexte militant. Il y a des gens de différents horizons, de différents âges, et d'une certaine manière, ça pourra peut-être commencer à construire une passerelle entre le monde militant et le monde ouvrier ou le monde populaire qui malheureusement sont assez éloignés. Voilà.
Alors c'est rigolo parce que tu invoques l'idée de passerelle. Et tout à l'heure, quand tu as dit, Isabelle, les jeunes acteurs en suivant Emma, ben, finalement, ça a permis qu'ils puissent continuer, hein, ailleurs. Déjà, j'ai manqué de t'interrompre en disant, en gros, c'est une passerelle, donc. Donc, ça fait quand même deux fois passerelle sur des projets qui sont portés par les mêmes personnes. Bon, c'est peut-être pas le hasard, quand même.
Non, mais de toute façon, moi, je dis que rien ne nous appartient, quoi. C'est, on est là, c'est un outil, c'est une envie. Moi, je suis contente que les jeunes, ils aillent voir ailleurs, mais je leur dis toujours de pas oublier d'où ils viennent. Parce que bah, c'est vrai que le problème du spectacle vivant, et le fait de se mettre en scène, et puis quand on commence à se sentir bien, bah, y a l'ego, hein, mais l'ego, on le voit chez des adultes, donc chez un jeune, moi je dis que c'est un peu normal, il faut qu'il passe par là, oui. mais je les rate pas, quoi. Oui, je les rate voilà. Pas sur des trucs, mais qu'ils oublient pas d'où ils viennent. D'ailleurs, certains, il y en a un notamment qui prend des cours de théâtre plus professionnels cette année, mais il passera à l'atelier, transmettre aux autres à un moment donné, faire un training avec eux, etc. Et il est tout à fait d'accord. Et c'est voilà, c'est la transmission, c'est ce que fait d'ailleurs moi ce travail, je l'ai appris parce qu'on me l'a voilà, on m'a transmis ça aussi. Hein, c'est Et il faut de la diversité. Ça, c'est des ghettos que de gens un peu avertis. Tac. Bon, c'est pas un reproche, hein. Mais c'est vrai que, comme tu dis, Philippe, le milieu militant, c'est malheureusement parce que un milieu plus intellectuel, enfin entre guillemets, soit des gens, mais on peut pas leur reprocher. Ce fossé social, il est là depuis si longtemps. C'est pas évident de venir dans un quartier populaire quand il vit pas, et de quand tu viens de quartier populaire, d'aller vers autre chose. Donc, moi, je suis quand même entre guillemets missionné pour ça. Pour travailler sur ça, sur du lien social. Donc je suis quand même payée pour ça aussi. Bon, après, j'ai une nature, j'ai toujours été comme ça. C'est peut-être pour ça aussi que le quartier a voulu m'embaucher sur un travail comme ça. Mais c'est vrai qu'il faudrait vraiment faire... Il faut que ça se mélange. Mais sur Emma Goldman, je pense que ça fait autant de bien aux jeunes qu'aux personnes qui arrivaient peut-être plus de milieux différents. Alors, c'est pas forcément des riches, mais plus intello, plus conscientisés, on peut dire, voilà. Mais ça leur a fait du bien dans les deux sens, je pense. Autant, voilà. Ça faisait du bien aux jeunes d'avoir ces adultes qui étaient avec eux, adultes ou encore, il y en avait certains qui avaient le même âge. Mais c'est vrai que nous, on a des jeunes qui sont en lycée professionnel ou au chômage, ou voilà, et les autres qui jouent peut-être dans les choristes de Cris du Peuple, qui ont, pour certains, peut-être... un certain niveau, bon, ils sont à la fac, voilà, quoi, je veux dire, c'est pas non plus... Mais c'est sûr que ça change déjà de classe sociale. Ça, c'est vrai. Mais après, justement, quand ils se mélangent, ça se voit plus, ça. Si le mélange, il est là, ça se voit pratiquement plus. C'est que les moments de rencontre sont super rares. Dans la vie, quoi, en général.
Je me demandais là, si tu connaissais ou si tu t'étais posé la question de la motivation des personnes qui participaient, aussi bien des jeunes et des moins jeunes. Est-ce qu'ils venaient à un atelier théâtre? Est-ce qu'ils venaient par rapport à un projet qui était proposé, donc là, qui est plus ou moins établi, donc par rapport au thème? ou la dernière fois par rapport à la thème de la pièce en suivant Emma. Voilà, est-ce que ces questions-là, est-ce qu'il y a des tu sais, est-ce que c'est exprimé comme ça, est-ce que tu peux en parler de ce qu'ils attendent et ce qui les motive un petit peu?
Oui. Alors moi je pense alors que ça soit chez les très jeunes, bon, 11 à 60 ans, non, je crois, voilà, il y en a, très jeunes, que pour les jeunes, tu veux
non,
dire
non,
nous, le type d'atelier qu'on met en place, parce qu'on fait pas que du théâtre, il y a d'autres choses aussi, mais enfin, on est quand même axé plus sur le spectacle vivant, c'est vrai, on est plus spécialisé, mais pas que, la motivation, en tout cas pour le théâtre, c'est l'envie de jouer, de s'éclater, d'oublier son quotidien et de s'amuser. Le théâtre, c'est un truc, je crois que ça libère, quoi. C'est le truc, parce qu'en plus, nous, on les met en confiance. On n'est pas du tout dans un truc professionnel où il y a le concours au conservatoire au bout. Non. Après, peut-être qu'il y a des jeunes qui vont arriver à ça. C'est arrivé, hein. D'ailleurs, ce soir, il y a Louisa. Je prends l'exemple de Louisa, qui, elle, est arrivée à 12 ans sur cet atelier. Elle a envie de faire du théâtre. Mais il y a beaucoup de jeunes, hein, qui ont envie de faire du théâtre. Alors, pas tous, mais quand ils ont envie, quoi. C'est pour s'amuser. Il y a des choses aussi qui ont été très moteur sur nos quartiers, c'est peut-être un peu débile ce que je vais dire, mais des Jamel Debbouze et tout ça, c'est des référents. C'est, voilà, bon, entre autres, hein, c'est pouvoir exprimer ce qu'on est devant tout le monde, et puis avec de l'humour et tout ça, donc je pense que c'est parce qu'ils ont envie de s'éclater, en premier, c'est s'amuser. Mais Louisa, elle arrive à 12 ans pour faire du théâtre, juste pour s'amuser. Résultat, en troisième, elle a voulu passer en seconde au lycée Montesquieu, mais je crois que cet exemple, je l'avais déjà donné ici. Elle arrive du collège Blanqui, qui est le collège le plus en détresse sur ce, je crois que même c'est le collège qui a le moins bon résultat, parce qu'on parle en termes de résultats dans l'éducation nationale, malheureusement, mais le moins bon collège de Gironde, je crois, hein, car elle est moins bon. Donc elle avait très peu de chances de pouvoir, en arrivant de ce collège, de pouvoir rentrer au lycée Montesquieu. Et elle voulait faire la section théâtre, puisqu'elle maintenant était branchée théâtre, et elle est là-bas, cette section théâtre. J'ai téléphoné. Bon, elle avait le niveau, hein. Elle avait le niveau pour passer en seconde, hein. Voilà, donc c'était pas le collège de quartier, nous, le lycée de quartier. Le lycée de quartier, c'est le lycée Condorcet, le lycée général. Donc, elle voulait faire cette option. J'ai appelé. J'ai dit, voilà, moi, on est quand même, on peut faire des passerelles, nous, les animateurs de quartier, avec voilà. Et j'ai appelé, bon, ils m'ont dit, mais si elle a le... Bon, on examinera son dossier. J'ai dit, mais j'ai appelé juste pour dire, pensez quand même à ouvrir. Parce que je sais que s'ils voient qu'elle vient du collège Blanqui, boum, ça peut bloquer d'entrée. Même si elle a la moyenne ou 12 de moyenne, parce qu'ils vont dire 12 de moyenne là, et ben c'est 8 en fait en réalité, et tatata. Résultat, elle a fait sa seconde, elle est en première, et même elle est tellement bonne en maths qu'elle est en première S, et elle n'a pas pu faire la première L, parce qu'ils ont voulu la garder en section scientifique. Et donc, elle fait que théâtre d'une manière facultative. Mais elle présentera quand même au bac. C'est pas une option lourde. Elle a pas pu l'avoir en option lourde, parce que les options lourdes théâtre sont qu'en littéraire. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y en a. Et c'est pas pour dire, je veux pas faire de la discrimination, je sais pas comment on dit, la positive et tout. Mais je pense quand même aussi dans Emma, certains... je ne donne pas de nom, par contre, de prénom. S'ils n'avaient pas le théâtre, ils n'auraient rien. Parce qu'on a quand même des jeunes qui sont déscolarisés, qui ne savent plus quoi faire de leur peau, pour certains. Ils viennent à l'atelier, c'est le rencard avec les copains, c'est là où on fait quelque chose, on est ensemble, c'est le collectif. Et ça, ils ont fini par piger. Moi, j'ai toujours mis ça en avant. Il n'y a pas de rôle phare, il n'y a pas tout ça, même s'il y en a qui portent des rôles plus lourds. C'est tout le monde est important. Et ce que je disais tout à l'heure sur Louis Jouvet, il n'y a pas de petits comédiens, il n'y a que des grands rôles. Mais c'est vrai, voilà. Donc, ça, je le répète à chaque fois, mais ça en dit long, quoi. C'est tout le monde à sa place. Et bon, après, ça peut être très éphémère, mais enfin, quand ils ont réussi à tenir sur une année d'une création, c'est déjà énorme. Parce que moi, je suis super exigeante. De toute façon, il n'y a pas de truc au rabais, quoi.
On fait une petite pause. Mmh. C'était Boga Boga, chanté par Beñat Atxarri et les chœurs basques à main lourde. Voilà. Vous écoutez La Clé des Ondes, c'est l'émission à Chaïra, 90.10. Vous pouvez nous appeler au 05 56 50 69 99, et si vous avez le temps, vous nous écrivez cercle-jean-barruet@fédération-anarchiste.org. Voilà. Donc Isabelle était en train de nous raconter de fort belles choses qui font du bien.
Ouais.
À propos du travail qu'elle a engagé donc avec les jeunes de Bordeaux Nord.
Jeunes et moins jeunes.
Et moins jeunes, c'est vrai. Pardon.
Je voulais juste te dire que le collectif Bordeaux Nord, c'est pas seulement ça. L'atelier, c'est qu'une partie du travail. Après, il y a tout le lien qu'on fait, qu'on intervient aussi dans des lycées, des collèges. Là, notamment, il va y avoir le printemps de la poésie, Demander l'impossible. Mmh. Donc, avec les tafurs, ils nous ont demandé pour faire intervenir un poète irakien. C'est plein de choses. Il va y avoir aussi un atelier vidéo qui va être mis en place avec l'Amicale laïque du Paty, donc nous aussi on va aider sur ce projet pour faire un clip vidéo, un groupe de rap qui s'appelle HLM sur le quartier. Et c'est des jeunes qui ont maintenant entre 15 et 22, je dirais. Et c'est vrai qu'ils ont eu une demande. Oui, vous faites rien pour nous, il n'y a jamais rien, patate. Ce qui est vrai, il n'y a pas grand-chose pour les 15-25 ans. Le théâtre, tout le monde ne branche pas. Donc oui, il faut aussi partir de ce qu'ils aiment. Parce que voilà... on va pas leur imposer des trucs. Bon, leur culture, c'est le rap, c'est la vidéo, c'est tout ça. Ben, du coup, on va lier le truc. Mais avec l'intervention d'artistes, de professionnels. Et essayer de les tirer vers autre chose. Mais c'est vrai que le but, c'est pas qu'ils nous fassent un clip avec, ben, on leur a dit, hein, avec grosses bagnoles, les femmes, machin, tout ça. Bon, comme ils disent, bon, de toute façon, on n'en a pas de grosses voitures, donc ça risque pas. Mais, non, mais.
Et des femmes.
Et alors. Le problème garçon-fille est quelque chose de très... Nous, on travaille là-dessus, on est missionné aussi pour ça. Et je dis missionné parce que oui, on est payé aussi pour ça. C'est de rétablir du lien entre les filles et les garçons. C'est terrible, cette distance qu'il y a. Et cette... Il y a un fossé. Ils se mettent même par différents groupes, hein, communautaires, on peut dire aussi. Mais, mm-hmm. Mais qu'est-ce qui a créé toute cette distance et, tout ce, c'est de la détresse, quoi, en fait. Mais le groupe HLM, ils sont très présents depuis longtemps sur ce quartier. Ils ont grandi ici. Et ben, partir d'eux, parce que c'est des jeunes qui sont très sympas. Il faut partir de ce qu'ils aiment et on va les aider à réaliser leur premier clip avec des moyens, quoi. Il leur faut des moyens financiers. Il faut qu'ils enregistrent dans un studio. Bon, il y a ce qu'il faut sur le quartier. Il faut que il y aura l'intervention d'une association qui s'appelle La Bande Passante et qui sont des professionnels, vont les aider à tourner le clip, à faire le montage, etc., etc. Donc ça, c'est très important, même si ça va concerner entre 5 et 8 jeunes, peut-être, mais ces jeunes-là vont être moteurs pour les autres. Mais faut les écouter. C'est vrai qu'ils nous ont dit « Ouais, nous, il n'y a rien pour les jeunes. » Et c'est vrai qu'il y a le désert dans les secteurs jeunes, dans les centres sociaux, etc. À partir de 15-16 ans, on les voit plus. Ou très rarement, et notamment l'Amicale laïque, par contre, là, on répétait ce soir, ils ont encore un groupe de garçons qui viennent, parce qu'ils ont un baby-foot. Mais c'est vrai que soit ils se sentent pas concernés, soit on n'est pas bon, mais ce que je pense pas, parce que je connais quand même les animateurs, les gens sont de mieux en mieux formés quand même dans l'animation. Mais il y a un problème social, tout a été très vite, le multimédia, on ne répond pas à leurs demandes, ou aussi leurs demandes, ils ne l'expriment pas facilement non plus. Il faut des interlocuteurs, il y a un fossé aussi entre adultes et jeunes, enfin... C'est quand même assez hallucinant, moi, je trouve. Hein,
Oui, puis il y a des phénomènes de projection. Tu disais tout à l'heure, on se projette pas forcément comme apte à pouvoir aller en bibliothèque, à pouvoir aller au théâtre. Et de la même façon, les jeunes, on retrouve un peu le phénomène au niveau des centres de loisirs. À partir de 13 ans, ils y vont plus parce que les copains n'y vont plus, parce qu'il n'y a plus la projection possible. Et de fait, c'est les uns entraînent les autres. Il y a peut-être des choses effectivement à rétablir et puis partir d'eux, effectivement, je pense que c'est aussi un bon moyen.
Voilà, et puis on a beaucoup de jeunes aussi qui ont bouffé du centre de loisirs et du machin depuis qu'ils sont tout petits. Les haltes garderies, les machins, enfin les... Oui. Les, ce qui est très bien, parce que ça a aidé aussi les parents, mais à un moment donné, ils peuvent tout simplement avoir ras-le-bol de la structure. Mmh. Après, on voit quand même les, l'aide aux devoirs et tout ça dans les quartiers, c'est super important. Il y a quand même des jeunes qui viennent, et je peux vous dire que ça taffe, ça bosse. Enfin, moi, je vais au centre social Bordeaux-Nord, j'y passe régulièrement pour les voir, c'est là où j'arrive. Et beaucoup les filles, d'ailleurs, elles travaillent grave parce qu'elles savent que leur avenir, il est là, l'école et tout. Bon, et voilà, il n'y a quand même pas que du négatif, hein, il y a... Mais bon, c'est vrai qu'il y a un fossé social, il y a un fossé entre les classes sociales, entre les origines, entre les... C'est les garçons-filles, enfin, c'est... on a un boulot monstre à faire, quoi, je veux dire. Moi, je me dis, mais pourtant, j'ai toujours été là, et où j'ai rien vu venir, mais je suis toujours surprise, et malheureusement, je ne m'habitue pas à ça, quoi, de voir cette détresse, quoi, de... Parce que les jeunes qui vont quand même... qui sont pas très bien dans leur peau et tout, c'est quand même un signe d'une... Bah ouais, d'une grosse détresse, d'un gros mal-être et tout. Et nous, en tant qu'adultes, on peut pas... une jeunesse qui va mal, je veux dire, le pays va aller mal, quoi. Enfin, je veux dire, c'est tout qui va avec, quoi. Enfin, voilà, ça, je pense à personne. Hein.
Mmh. Mmh. Ouais, je crois que dans les centres sociaux aussi, c'est le choc entre différentes générations, entre les jeunes et les personnes un peu plus âgées, adultes ou âgées. Quelquefois, il peut, et c'est peut-être pour ça aussi dans les centres sociaux la difficulté d'accueillir en même temps certaines générations. C'est vrai qu'entre ça peut être quelquefois difficile.
Je veux pas défendre mes collègues. Moi, je pense quand même que le premier truc, c'est le manque de moyens.
Ouais.
C'est quand même le manque de moyens, parce que il faudrait faire des fois du cas par cas, il faudrait pouvoir suivre sur des petits groupes de travail, les centres sociaux. Enfin, bon, moi je parle de ce que je connais ici. Hein, c'est des gens qui bossent énormément, parce que c'est vrai que d'ailleurs quand il y a un problème, c'est contre nous qui se retournent les jeunes. Hein. C'est pas contre le centre-ville et voilà. Hein, c'est contre nous. Il y a quand même déjà eu des problèmes au Grand Parc et tout ça. Ils attaquent ce qu'ils ont là en face. C'est comme ça. Donc, et d'ailleurs, c'était pas forcément des jeunes, parce qu'ils avaient déjà quand même plus de 25 piges. Hein. Mais, enfin, je veux dire, c'était pas des ados, quoi. Mais non, il y a un boulot quand même énorme qui est fait, mais il manque de monde, parce que moi, ce que je vois quand même dans les secteurs jeunes et autres, hein, on a quand même des gens maintenant diplômés qui font des choses super intéressantes avec les personnes. Ça a drôlement évolué les techniques d'animation, d'éducation. On n'est plus au macramé, à la peinture sur soie, bien que c'est très bien aussi, hein, je veux dire, mais il y en a, ils ont une représentation comme ça, tu vois. Mais le truc, c'est le manque de moyens. Attends, je vais te dire, pour chaque sortie, un jeune, justement, d'un quartier, comme il n'a pas accès à certaines choses, tu veux des fois lui offrir, parce que peut-être qu'il a envie aussi de partir une semaine au ski, tu vois. Eh ben, il n'y a pas les moyens de ça. C'est pas vrai. Alors c'est vrai que tout le monde va pas au ski, hein, je comprends bien, mais au moins tu vas une fois dans ta vie, puis c'est tout, tu vois, c'est une journée de karting, ben oui, ils ont envie de faire des trucs comme ça. Attends, t'as la téloche qui est là, et toi t'es derrière, vas-y, va combattre ce truc, tu vois. Ils ont envie peut-être de faire une journée de karting, mais la journée de karting, je sais pas combien c'est d'euros, moi je fais pas ça parce que c'est pas ma partie, mais même aujourd'hui, un jeune qui s'inscrit dans un club de foot, c'est cher.
Ah ouais.
Non mais c'est vrai, même aujourd'hui, c'est le sport qui était populaire. Deviennent chers. Parce que maintenant, il y a une espèce d'élitisme à travers ça, je sais pas, moi, je connais que dalle en sport, donc je suis mal placée pour en parler, mais non, moi, je pense que c'est un manque de moyens, c'est tout partir à la base. L'école, ils sont débordés, les écoles de quartier. Les écoles de quartier, mais attends, je vais te dire, on a des jeunes maintenant en détresse dès le CE2, pratiquement. Tu te rends compte? Non, mais c'est vrai, une violence verbale, etc. Mais qui? C'est pas que les parents, c'est un ensemble de, il y a eu une démission. Attends, moi, quand ma fille, elle est entrée au CP, elle a 21 ans maintenant, j'ai l'impression de me revoir, moi, au CP. Tu vois, les mêmes trucs. Et encore ça, c'était pas trop mal parce que l'instit, elle était chouette et des méthodes un peu classiques de travail, mais du coup, ça marchait, quoi. Enfin bon, ça, je veux pas aller sur ce terrain-là parce que j'y connais rien. Mais quand elle est allée au lycée, j'avais l'impression que moi, le lycée que j'avais vécu était beaucoup plus ouvert que son lycée à elle. Les années fin 70, début 80. Enfin, j'étais au lycée en 79. J'ai fait une seconde, une première, moi, c'est tout. Mais après, ce que je veux dire, et pourtant elle était dans un lycée super sympa, parce qu'elle était au lycée de quartier, lycée Condorcet, où je trouve qu'ils bataillent, ils essayent de maintenir les jeunes jusqu'au bac et tout. mais attends, s'il n'y avait pas eu des projets un peu extrascolaires, j'avais l'impression qu'elle faisait des trucs vachement plus ringards que moi. Alors que, non mais je suis désolée de ça, mais c'est pas les profs que j'attaque là, c'est un manque
de moyens, de tout le système,
c'est, ouais.
Dans des programmes.
Bon, je vais peut-être pas monopoliser
la discussion. Non, mais tu pourrais nous rappeler les dates, quand même.
Hein? Voilà, donc le 27 mars, on joue au centre d'animation du Grand Parc. Je peux pas vous dire encore si ça sera 20h ou 20h30. On l'a pas encore, voilà, c'est un samedi. Et le 4 avril à 15h à Saint-Astier en Dordogne. Donc on ne sait jamais si vous passez par là-bas. Et ensuite, je vous invite vivement à regarder la programmation de la boîte à jouer. Il va y avoir là notamment Edmond, une superbe comédienne de Marseille qui vient avec une histoire de femme, les femmes de 50 ans un peu seules. Tout ça. Donc c'est une création, hein, donc je ne l'ai pas vue, mais elle était déjà venue il y a quelques années avec un très beau spectacle, donc j'ai complètement confiance. Et là, la semaine prochaine, jeudi, vendredi, samedi, je vous invite vivement à voir le cabaret Frida ou Papa. C'est tous les premiers jours de chaque mois, c'est à mourir de rire. C'est la forme cabaret, hein, avec transformiste, numéro et tout. C'est très burlesque, très marrant. Hein. On peut même y aller avec les enfants sans problème, mais ça fait du bien de voir ça. C'est un très beau, c'est un chouette spectacle. Donc c'est Jean-Pierre Pacheco de la boîte à jouer qui a monté ce spectacle avec des amis IES, IES et IES. Donc voilà. Et moi je l'ai déjà vu deux fois, je vais encore y retourner. Ça, alors là, on évacue tout. C'est du plaisir, c'est vraiment du spectacle paillettes, burlesque. Ça fait vraiment du bien. Donc je vous conseille vivement. Donc n'hésitez pas pour les adhérents, je ne sais pas s'il y a des adhérents à la Clé des Ondes, enfin pour les gens qui sont habitués à la Clé des Ondes et qui sont précaires, etc., ou qui n'ont pas trop de moyens, appelez-moi au 05 56 43 53 08, collectif Bordeaux Nord. On peut vous faire des tarifs Bordeaux Nord. Voilà.
Tu peux redire le numéro de téléphone, j'ai pas...
05 56 43 53 08.
Là, c'est le collectif Bordeaux Nord.
Là, c'est le collectif Bordeaux Nord. Si vous voulez avoir des tarifs réduits pour la boîte à jouer, parce que vous êtes précaire, vous n'avez pas trop de moyens, n'hésitez pas. On peut aider à de la billetterie. Voilà. Bien.
Okay. Mais c'est très complet, ça met beaucoup de perspectives. Et puis.
On te souhaite bonne route à toi et à ceux que tu accompagnes.
Et à très bientôt.
Non, merci à vous. Puis moi, je tiens surtout à remercier les gens avec qui je travaille aussi, hein, parce que je suis pas seule. Hein. Voilà, ouais. Ça je veux dire. On est quand même une équipe. On est que deux salariés à l'association, mais on a les personnes de la boîte à jouer du centre social qui nous aident dans notre travail et les décisions, on les prend collectivement. Donc voilà.
Et donc, tu reviendras nous présenter la pièce dans combien de temps alors? Quand est-ce qu'elle aura infusé?
La pièce, il faut qu'elle soit prête pour fin juin pour les fêtes de nos quartiers, entre Bordeaux Nord, mais le quartier en pièce de théâtre, et le Grand Parc en fête, parce qu'il y aura un rendu de ce travail des textes, et enfin voilà, d'un travail théâtral sur scène, soit en extérieur ou en intérieur, même si en extérieur, on verra pour que ça soit sonorisé, pour pas que les comédiens soient en galère en extérieur, c'est pas évident de jouer en extérieur. Mais par contre, avant que ces comédiens arrivent sur scène, on prévoit de faire une déambulation de rue, où c'est là où vous êtes invités, pour ceux qui veulent participer ponctuellement à cet atelier, à venir sur ce gros week-end qu'on va organiser sur les vacances d'avril. Mais je repasserai d'ici là où on fera passer l'info. Parce que là, sur un week-end, on peut monter une déambulation de rue pour tous ces migrants qui arrivent. Parce que l'Eldorado, c'est quoi? Voilà.
laissez parler les petits papiers. À l'occasion, papier chiffon, puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler. Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer. Un peu d'amour, papier velours, et d'esthétique, papier musique. C'est du chagrin, papier dessin, avant longtemps. Laissez glisser papier glacé, les sentiments papier collant, ça impressionne papier carbone, mais c'est du vent. Machin, machine, papier machine, faut pas se leurrer, papier doré. Celui qui touche, papier tu mouches, et moitié fou. C'est pas brillant, papier d'argent, c'est pas donné, papier bonnet, où l'on en meurt, papier à fleurs, où l'on s'en fout. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion, papier chiffon, puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler.
Vous écoutez Achaïra sur la clé des ondes 90.10, un jeudi sur deux, de 21h à 23h. Voilà, donc on est dans la deuxième partie de l'émission. Et, eh bien, Denis a hâte de nous parler de M. Gauguin, qui vécut aux Marquises.
Et pas M. Gaudin, dont nous a parlé.
Exactement.
Bon, parce que si l'un avait fait le poil, l'autre... Non.
L'autre s'occupait de brosse pour peindre.
De brosse.
Donc il y avait des poils.
Oui, oui. Alors, micro bleu pour Denis.
Oui, alors, aujourd'hui, tout le monde, ou presque, connaît les peintures de Tahitien ou de Paul Gauguin. Mais je voudrais ce soir parler d'un autre Paul Gauguin. Moins connu du public, c'est le Paul Gauguin militant sur la fin de ses jours, défenseur des indigènes face à un pouvoir colonial tyrannique et corrompu. Mais laissons-nous donc porter au fil de ses correspondances et du journal qu'il écrivit durant son séjour aux Marquises, où se mêlent souvenirs d'enfance, réflexions philosophiques et dénonciation des abus de pouvoir colonialiste. Alors, tout d'abord, je peux évoquer ces souvenirs de jeunesse. Donc, je cite, c'est « Ma grand-mère était une drôle de bonne femme. Elle se nommait Flora Tristan. Proudhon disait qu'elle avait du génie. N'en sachant rien, je me fie à Proudhon. Elle inventa un tas d'histoires socialistes, entre autres l'Union ouvrière. Les ouvriers reconnaissants lui firent dans le cimetière de Bordeaux un monument. Il est probable qu'elle ne sut pas faire la cuisine. Un babouleux socialiste, anarchiste. On lui attribue, d'accord avec le père enfantin, le compagnonnage, la fondation d'une certaine religion, la religion de Mapa, dont enfantin aurait été le dieu Ma et elle, la déesse Pa. Entre la vérité et la fable, je ne saurais rien démêler, et je vous donne tout cela pour ce que cela vaut. Elle mourut en 1844. Beaucoup de délégations suivirent son cercueil. Ce que je veux assurer, cependant, c'est que Flora Tristan était une fort jolie et noble dame. Elle était intime amie avec Madame Desbordes de Valmore. Je sais aussi qu'elle employa toute sa fortune à la cause ouvrière, voyageant sans cesse. Et maintenant, je voudrais citer oui,
c'est dans le livre Oviri, donc.
Voilà, c'est des extraits du livre Oviri de Paul Gauguin. Et depuis 2 ans, donc là, je suis vraiment,
ce sont les écrits d'un sauvage.
Voilà, les écrits d'un sauvage. Depuis 2 ans qu'il résidait aux Marquises, Gauguin, comme ce qui précède, le laisse entrevoir, s'était attiré la haine des gendarmes. Il lui reprochait de monter les indigènes contre les autorités établies, de les inciter à refuser de payer leurs impôts et à ne plus envoyer leurs enfants à l'école. À quoi s'ajoutaient de vertueuses complaintes contre la liberté sexuelle qu'aurait encouragé Gauguin de sa case baptisée par lui « Maison du jouir ». Ses mœurs n'étaient-elles pas celles d'un disciple d'Épicure, ce que le marquisien n'avait guère besoin de connaître? Entre parenthèses, lettre du brigadier de gendarmerie Charpillier du 28 août 1902. Ne prenait-il pas la défense de tous les vices des indigènes? Et quand il s'assemblait complètement nu pour se saouler au vin d'orange, ne voyait-il pas dans ces scènes sauvages qui tournaient à l'orgie rien de plus qu'un simple amusement nécessaire au bien-être de l'indigène? Entre parenthèses, rapport de l'inspecteur Salle au ministère des Colonies, 4 avril 1903. Les choses se gâtèrent lorsque, au début de février 1903, Gauguin avait écrit à l'administrateur des Marquises, François Piquenot, pour réclamer une enquête sur le gendarme de l'île voisine de Tahuata, Étienne Guichenet, qui, selon la rumeur, avait touché des pots de vin des capitaines baleiniers américains. Ceux-ci auraient vendu en fraude des quantités de marchandises aux indigènes, faisant ainsi du tort au commerce local. Piquenot demanda par écrit des explications à Guichenet. Celui-ci s'empressa de transmettre la lettre de l'administrateur à son collègue Claverie, d'Ivaoa, qui décida de poursuivre Gauguin pour diffamation d'un gendarme dans l'exercice de ses fonctions. En conséquence de quoi, un juge, le 31 mars 1903, condamna Gauguin à 3 mois de prison et 500 francs d'amende, en application indue de la loi de 1881 sur la presse. Et à messieurs, c'est un courrier, à messieurs les inspecteurs des colonies, de passage aux marquises. Je veux simplement vous prier d'examiner par vous-même quels sont les indigènes ici dans notre colonie des marquises et le fonctionnement des gendarmes à leur égard. Et en voici la raison. C'est que la justice, pour raison d'économie, nous est envoyée tous les 18 mois environ. Le juge arrive donc pressé de juger, ne connaissant rien de ce que peut être l'indigène. Voyant devant lui un visage tatoué, il se dit « Voilà un brigand cannibale ». Surtout quand le gendarme intéressé le lui affirme. Le juge arrive donc et, de par sa volonté, s'installe à la gendarmerie, y prend ses repas, ne voyant personne autre que le brigadier qui lui présente les dossiers avec ses appréciations. Un tel, tous des brigands, etc. Voyez-vous, monsieur le juge, si l'on n'est pas sévère avec ces gens-là, nous serons tous assassinés. Et le juge est persuadé. À l'audience, l'accusé est interrogé de par l'intermédiaire d'un interprète qui ne connaît aucune des nuances de la langue, et surtout de la langue des magistrats, langage très difficile à interpréter dans cette langue entre guillemets primitive, sinon avec beaucoup de périphrases. Ainsi, par exemple, on demande à un indigène accusé s'il a bu. Il répond non, et l'interprète dit « il dit qu'il n'a jamais bu ». Et le juge s'écrie « Mais il a déjà été condamné pour ivresse !» L'indigène, très timide de par sa nature, devant l'Européen qui lui paraît plus savant et son supérieur, se souvenant aussi du canon d'autrefois, paraît, devant le tribunal, terrifié par le gendarme, par les juges précédents, etc., et préfère avouer, même quand il est innocent, sachant que la négation entraînera une punition beaucoup plus forte. Le régime de la terreur. En regard de ces indigènes, nous avons des gendarmes dans des postes ayant un pouvoir absolu, dont la parole fait foi en justice, n'ayant aucun contrôle immédiat, intéressés à faire fortune, à vivre sur le dos des indigènes généreux, quoique pauvres. Le gendarme fronce le sourcil et l'indigène donne poule, œufs, cochons, etc. Sinon, gare à la contravention. Ici, le gendarme est grossier, ignorant, vénal et féroce dans l'exercice de ses fonctions, très habile cependant à se couvrir. Ainsi, s'il reçoit un pot de vin, vous pouvez être sûr qu'il possède en main des factures.
Voilà. Donc ça, c'était en quelle année tu...
Alors ça, c'était, parce que les lettres sont de 1902. Voilà. Je le citerai d'autres passages à l'émission prochaine, parce que ça serait trop long. Hein.
Voilà, je crois que c'est ce que tu proposais, Denis, voilà, hein, de pouvoir citer.
Déjà, c'est bien que j'ai pu en parler. Là.
Déjà, on a une représentation de ce qui se passait à ce moment-là aux îles Marquises.
Voilà, une facette de Gonga, effectivement, qui n'est peut-être pas la plus connue.
Personnellement, au Viry, je crois que je sais pas, je suppose que c'est une déesse tahitienne. Mais c'est pas ce qui m'intéressait en priorité. Ce qui m'intéressait en priorité, c'est l'attitude défensive de Gauguin pour défendre les droits des indigènes, face à un colonialisme qui déjà commençait à... Il parle à certains moments, je ne les ai pas sous les yeux, des passages, d'un début de détérioration du milieu naturel.
Mmh. Ah oui.
Il commence à en parler.
Il y a déjà beaucoup de choses.
À la fin du 19e siècle.
D'accord.
Et aussi... aussi et surtout de sa fameuse lettre par laquelle il a dénoncé les abus de pouvoir d'un gendarme et ce qui lui a valu un procès à un moment de sa vie où il était fatigué, épuisé par la maladie. Voilà, ça aurait pu...
Donc tu nous donnes...
S'il n'était pas mort à ce moment-là, il serait allé en prison, quoi.
Donc tu nous donnes d'autres rendez-vous.
Voilà, je donne d'autres rendez-vous. Okay. Je l'ai déjà dit, je crois.
Avec Monsieur Paul Gauguin.
Super. Je crois que André, ça va être à toi.
Bien. Destruam et edificabo. Ah oui, excusez-moi, je parle latin avec un petit accent. Oui, c'est du latin. C'est la devise de... Alors, personne ne répond ?
Non.
De Proudhon, je détruis et je construis. Enfin, bon. Michel Onfray, dans Le Monde Libertaire du hors-série de l'hiver 2009-2010, lors d'un article sur le post-anarchisme ici et maintenant, préconise un capitalisme libertaire. Et pour cela, il donne Proudhon comme référence. Je croyais que ce papier allait provoquer des polémiques. Je n'ai pas encore vu ni entendu. Attendons un peu. On dit que Proudhon est le père de l'anarchisme. Il est certain qu'il a été le premier à donner une valeur positive au mot anarchie. Pour autant, ne se reconnaissent pas en lui pas mal de gens à cause de son antiféminisme et aussi à cause d'une certaine forme d'antisémitisme qui serait plutôt une judéophobie religieuse. Acceptons ces critiques parfaitement justes. Mais Proudhon n'est pas que cela. Son travail théorique et critique de la société telle qu'elle est l'a distingué à tel point que Marx, dans la Sainte Famille, saluait élogieusement son « Qu'est-ce que la propriété ?». Il écrira que Proudhon a posé pour la première fois la possibilité d'une véritable science de l'économie, que l'ouvrage... Donc, qu'est-ce que la propriété ? Est un manifeste scientifique du prolétariat français. On sait que les relations entre Marx et Proudhon se gâtèrent par la suite. Donc, qu'est-ce que la propriété ? Vient d'être réédité en livre de poche pour 7,5 €. Proudhon, c'est un grand lecteur de la Bible. Il y fait la... dans son « Qu'est-ce que la propriété ?», la remarque préparatoire que la terre a été donnée par Dieu au genre humain. Si la terre a été donnée à tous, pourquoi donc n'ai-je rien reçu, dit-il. Il semblerait que Proudhon fût croyant. C'était surtout un enthousiaste. Il suffit de lire ce texte, c'est assez incroyable. Enthousiaste, on sait que l'étymologie de ce mot veut dire à peu près « Dieu en soi ». Bon, passons. Proudhon pensait surtout que l'Église avait failli et que pour restaurer la religion, il fallait condamner l'Église. Passons là aussi là-dessus, on pourra y revenir. Donc, la terre a été donnée à tous, mais qu'en est-il alors de l'hérédité ? Ce droit ne peut-il être égal pour tous les enfants ? Les petits-enfants et les arrière-petits-enfants ? Et pourquoi l'égalité ne peut-elle être conservée dans le droit d'héritage ? Qu'est-ce que le principe d'hérédité ? Quels sont les fondements de l'inégalité ? Qu'est-ce que la propriété ? Qu'est-ce que le propriétaire ? À cette dernière question, Proudhon répond « Une machine qui ne fonctionne pas ou qui, en fonctionnant pour son plaisir et selon son caprice, ne produit rien ». Proudhon va donc décortiquer méthodiquement les origines de la propriété. Pour lui, Alors rappelons qu'il exerça entre autres métiers la fonction de comptable. Donc pour lui, les origines de la propriété, quand il décortique, il dit « si nous en sommes arrivés là, c'est qu'il y a une erreur quelque part ». C'est le comptable qui parle. Et il va démolir avec une verve qui frise la naïveté, les arguments des juristes, des propriétaires et des gouvernements. Oui, quand je parle de naïveté, à un moment, j'ai piqué cette phrase, il dit « j'ai accompli l'œuvre que je m'étais proposée, la propriété est vaincue, elle ne se relèvera jamais ». C'est de la naïveté. Alors, la propriété, qu'est-ce que c'est? C'est le droit du premier occupant? C'est le résultat du travail? Le droit d'occuper le sol est égal pour tous. Et qu'un homme prétende transformer son droit de possession en droit de propriété, alors là, Proudhon lui déclare la guerre et le combat à outrance. Il dira « Je jure haine à la propriété ». Si ce texte, donc « Qu'est-ce que la propriété ?», constitue un premier mémoire qui fit grand scandale, deux autres suivirent, qui nuancèrent le premier, mais qui n'empêchèrent pas Proudhon d'être poursuivi en justice. Il n'est pas possible ici de résumer la pensée de Proudhon, globalement, et encore moins son « Qu'est-ce que la propriété ?», pensée en mouvement, qui plus est. Alors je vais me contenter d'en relever quelques concepts. Une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est le concept de force collective. Il dit « Un rassemblement de travailleurs dégage une force collective » supérieure à la somme des forces de ces mêmes travailleurs s'ils agissaient isolément. Exemple, 100 ouvriers n'équivalent pas à 100 fois un ouvrier. Et il donne l'exemple de l'obélisque de Louxor. 200 grenadiers, 200, ont, en quelques heures, dressé l'obélisque sur sa base. Est-ce qu'un grenadier, en 200 jours, en serait venu à bout? C'est ça, la force collective. Sur les conséquences sur le salaire. Il dit « Le travailleur devrait conserver, même après avoir reçu son salaire, un droit naturel de propriété sur la chose qu'il a produite. Car le travail a créé une valeur qui n'est pas payée complètement par le salaire. Le salaire n'est que la dépense de l'entretien et la réparation journalière du travailleur. Le travailleur n'a rien vendu. Le salaire du travailleur ne dépasse guère que sa consommation courante, donc, et ne lui assure pas le salaire du lendemain, tandis que le capitaliste, en s'appropriant le surplus, sécurise son avenir. Le capitaliste, dit-on, a payé les journées des ouvriers. Il faudrait dire, le capitaliste a payé autant de fois une journée qu'il a employé d'ouvriers. Oui. C'est un peu peut-être difficile comme ça à écouter tout ça, mais je vous assure que je trouve que ça a du poids. Donc le capitaliste n'a pas payé la force collective qui résulte de l'union des travailleurs. Lorsque toutes les forces individuelles ont été payées, la force collective n'a pas été payée. C'est ce surplus dont s'empare le capitaliste que Proudhon nomme l'aubaine. Alors il parle aussi de l'artisan, il dit... Ce dernier doit être le propriétaire du produit de son travail. Alors oui, si l'on tient compte que même ce travail est toujours le résultat d'un effort collectif. Mais l'instrument utilisé, la terre, l'eau, etc., est propriété commune. J'ai piqué aussi dans ce texte une citation qui m'a fait penser à Bakounine. Il dit « La liberté de chacun rencontrant dans la liberté d'autrui non plus une limite » comme dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, mais un auxiliaire. L'homme le plus libre est celui qui a le plus de relations avec ses semblables. C'est beau ça, non? Donc c'est piqué dans Confession d'un révolutionnaire, édité chez Rivière. À propos de l'inégalité des talents, des capacités, etc., il dit « Le talent est une création de la société bien plus qu'un don de la nature ». C'est un capital accumulé. Un peu plus loin, la possession est dans le droit. La propriété est contre le droit. Supprimer la propriété en conservant la possession. et par cette seule modification dans le principe, vous changerez tout dans les lois, le gouvernement, l'économie, les institutions. Vous chassez le mal de la terre. Le gouvernement de l'homme par l'homme, sous quelque nom qu'il se déguise, est oppression. La plus haute perfection de la société se trouve dans l'union de l'ordre et de l'anarchie. Alors là, il y a un petit passage que vous connaissez tous sûrement, mais que je ne résiste pas au plaisir de vous lire. Quelle forme de gouvernement allons-nous préférer ? Eh, pouvez-vous le demander, répond sans doute quelqu'un de mes plus jeunes lecteurs. Vous êtes républicain. Républicain, oui, mais ce nom ne précise rien. Res publica, c'est la chose publique. Or, quiconque veut la chose publique, sous quelque forme de gouvernement que ce soit, peut se dire républicain. Les rois aussi sont républicains. Eh bien, vous êtes démocrate ? Non. Quoi ? Vous seriez monarchique ? Non. Constitutionnel ? Dieu m'en garde. Vous êtes donc aristocrate ? Point du tout. Vous voulez un gouvernement mixte ? Encore moins. Qu'êtes-vous donc ? Je suis anarchiste. Je vous entends, vous faites de la satire. Ceci est à l'adresse du gouvernement. En aucune façon, répond Proudhon. Vous venez d'entendre ma profession de foi, sérieuse et mûrement réfléchie. Quoique très ami de l'ordre, je suis dans toute la force du terme anarchiste. Écoutez-moi.
Entendu.
Une petite pause.
A predicar la paz.
Vous écoutez Achaïra sur la clé des ondes 90.10. Flora va vous parler de la sécurité sociale.
Oui, ben on va revenir à la triste réalité qui nous est proche et quotidienne. Et donc je vous propose de revenir sur la question de la sécurité sociale, parce qu'en effet, il y a du nouveau. L'ennui, c'est que quand il y a du nouveau, on aurait tendance à dire aïe aïe aïe.
Qu'est-ce qui nous arrive ?
Quelles sont donc les nouvelles menaces qui nous guettent et qui vont nous mener encore un peu plus dans la situation subie de clients et non plus de sociétaires ou de bénéficiaires, de clients donc à rentabiliser, avec de surcroît comme horizon final la casse définitive de la sécurité sociale. Là, je n'ai fait que planter le décor. Bon. Alors, tout d'abord, il est nécessaire d'avoir à l'esprit que depuis une quinzaine d'années, les cabinets de consultants ont poussé comme des champignons dans le milieu des complémentaires santé, y compris chez les mutuelles, qui même si elles s'affichent militantes, ont cette même pratique. Leurs honoraires avoisinent les 1 000 euros par jour en échange de leurs précieux conseils. Pour rappel historique, le régime obligatoire, la sécurité sociale, offre les mêmes remboursements à tous et les cotisations sont proportionnelles au salaire de l'assuré. En revanche, le régime complémentaire repose sur une multitude de contrats en tout genre, établis selon des critères, alors qu'ils sont variables, basés sur l'âge, les revenus. Et de toute façon, les assureurs demandent en général des renseignements médicaux. De plus, le secteur de la mutualité, traditionnellement et historiquement plus attaché à la protection sociale, a énormément évolué ces dernières années. Les grandes mutuelles ont créé des structures communes et d'autres ont transformé habilement leur statut afin de pouvoir faire des bénéfices, alors que au départ, leur statut ne prévoit pas pour eux la possibilité de faire des bénéfices. Le second problème qui se pose dans tout ce contexte concerne les exonérations. ACT UP, Paris, révélait qu'en 2009, les exonérations de cotisations de sécurité sociale se sont élevées à 30,7 milliards d'euros. Les principaux bénéficiaires de ce phénomène étant les entreprises. Donc, les employeurs sont notamment exonérés de cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires. Également sur les heures supplémentaires et encore sur les apprentissages, les emplois à domicile, les contrats aidés, les zones franches urbaines. Donc, on voit bien les orientations que prend le salariat. Les consultants aux tarifs exorbitants, eux, se gardent bien de commenter ces chiffres. Ils ne s'occupent pas non plus des moyens à mettre en œuvre pour reboucher le trou de la sécu. En revanche, ils cultivent de grandes idées sur comment réduire les dépenses. Voilà quel est leur cheval de bataille. Pour eux, il suffit de s'attaquer aux dépenses et en premier lieu, s'attaquer à ce qui coûte le plus cher. Donc, en l'occurrence, le projet qui se profile va concerner les ALD, les affections longue durée, qui effectivement représentent le premier poste des dépenses de la sécurité sociale avec leur prise en charge à 100% par le régime obligatoire. Alors, ça va concerner évidemment les maladies les plus sérieuses, comme les cancers, la séropositivité, les diabètes et les personnes âgées qui sont atteintes de maladies dégénératives. 60% des remboursements de l'assurance maladie concernent 15% des personnes assurées, qui sont donc en ALD. Soit elle représente 0,7% de la population qui perçoit en moyenne 25% des prestations de la sécurité sociale. Et c'est la base du système de solidarité. Sauf que maintenant que la question est de faire des économies et que tout le reste passe à la trappe, ben, ça conduit à stigmatiser les personnes qui donc coûtent les plus cher, donc celles qui ont le plus de besoins. Or, si les maladies concernées couvertes par la LD étaient partiellement déremboursées, cela pourrait représenter un transfert potentiel de plusieurs milliards d'euros vers les organismes complémentaires. Mais comment faire passer la pilule sans risquer la colère des associations de défense des maladies graves? Donc, les idées commencent à émerger. On entend parler d'instaurer un ticket modérateur de 10% en 3 ans à partir de 2011. Ça voudrait dire concrètement que la sécurité sociale ne rembourserait que de 95% à partir de 2010, puis 90% au lieu des 100% actuels. L'autre idée, ce serait de restreindre l'accès au régime des ALD selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Plusieurs ALD sont concernées, donc on en a parlé, maladies graves, diabète, tuberculose. Et de fait, ça va concerner des millions de personnes qui ne seraient plus en charge, prises en charge à 100%, ce qui provoquerait une hausse sans précédent des cotisations aux complémentaires santé. C'est un arrêt de mort pour les personnes exposées qui sont les plus démunies. Les experts proposent également d'autres mesures, bon, celles-ci sont annexes pour eux, pour stopper les dépenses et remettre en cause des remboursements tels que le petit appareillage, alors ça peut concerner les bas de contention, les matériels orthopédiques, bon, ce ne sont que des exemples. Ensuite, les médicaments à vignette bleue, qui sont les médicaments qui sont pris en charge à hauteur de 35%, les soins dentaires et les frais d'opticien. Bon, il faut dire qu'ils sont déjà presque intégralement pris en charge par les complémentaires. Mais enfin, bon, ils en remettent une couche. Mais, aux grandes dames de ces mêmes experts, les Français interrogés sont encore très attachés au principe de la solidarité et de la mutualisation. C'est comme ça que 95% des sondés considèrent que la prise en charge à 100% des ALD est justifiée, contre seulement 4% qui estiment le contraire. Alors nos experts ressortent comme un trophée leur cher bouclier sanitaire qui consisterait à maintenir le 100% pour les personnes dont les revenus seraient inférieurs à un certain plafond. Sauf qu'ils oublient de nous donner une évaluation de ce dit plafond et ne donne donc aucune précision sur ce montant. Voilà, alors pour finir, et ce sera la cerise sur le gâteau, le cabinet Jalma, donc, qui avait été chargé par ses experts d'évaluer les possibilités d'abaisser les dépenses, énumère à la fin de son rapport les personnalités du secteur de la mutualité qui ont soutenu ces propositions. Alors, on va trouver l'actuel et le futur président de la Fédération nationale de la mutualité française, la FNMF, qui couvre donc 37 millions de Français. Donc, ça fait du monde. On va trouver Daniel Avis, qui est PDG de la Matmut, qui est surnommé, ce cher monsieur, l'homme aux 8 Porsche, je ne savais plus combien il y en avait, c'est pour ça que je recherchais mes notes. L'homme aux 8 Porsche, rien que ça. Et on va trouver Guillaume Sarkozy, directeur général du groupe Malakoff-Médéric. Peut-être que le nom vous dit quelque chose. Et encore, Guy Valencia, alors lui c'est d'un autre type, c'est un chef du département d'urologie à l'Institut Mutualiste Montsouris, médecin traitant de la même mutualité française et auteur d'un livre en tant que médecin, hein, au titre « Rêvé par tout bon ultra-libéral, la santé n'est pas un droit ». Voilà. Donc, écoutez, pour conclure, hein, le danger et que de plus en plus de personnes affectées par les maladies graves négligent leur traitement et leur suivi préventif, faute de revenus suffisants, mais également pour les personnes les plus favorisées, de voir leur cotisation de mutuelle doublée en un laps de temps record. Voilà. Donc, ben, les attaques viennent toujours des mâles, n'est-ce pas? Voilà pour la sécu.
Moi, je vais vous faire un petit topo sur ce qui se passe dans l'éducation nationale. Donc, mois de janvier, dans les écoles, on reçoit les évaluations nationales CM2 à faire passer. Et bien voilà, si on refuse de les faire passer, on a de sévères ennuis. Donc, ce qu'on appelle les désobéisseurs, bon, sont à pied d'œuvre avec plus ou moins de succès. Parmi les bonnes nouvelles, quand même, Erwan Redon a été maintenu sur son poste à Marseille. Autre fait encourageant, le collectif de refus de bas élèves annonce de plus en plus de signatures de dépôts de plaintes, pardon, de parents d'élèves, et donc programme une nouvelle campagne nationale pour augmenter ces plaintes. Pour ce qui est de la Gironde, pour le moment, c'est zéro. Voilà. Donc, mais que font les enseignants?
Girondin.
Le mouvement des désobéisseurs a suscité de la part des responsables syndicalistes au niveau national certaines réflexions assez curieuses. En fait, ils disent que le mouvement des désobéissants serait en difficulté parce qu'il se fonderait sur une action individualiste. Oh les vilains! Eh oui, en faisant l'amalgame entre l'individualité accomplie et l'ego, ça passe pas, c'est pas possible. C'est la conscience de l'injustice, du viol de la liberté de conscience et des droits humains fondamentaux qui font réagir les personnes, qui les font désobéir. Tant que l'on reste sous l'emprise des clivages idéologiques qui divisent... C'est quoi? Qui divisent le tissu social... Là, je suis un peu perdu. Alors, je me reprends. Donc, oui, par rapport à cette, ce jugement que je trouve mais complètement nul de la part des syndicalistes, de dire que la difficulté du mouvement des désobéisseurs est qu'il se fonde sur une action individualiste. Comment des gens peuvent-ils penser cela? Je trouve ça complètement aberrant. Voilà, ça me désole complètement. Alors, on va les laisser continuer à magouiller pour avoir la direction du syndicat. Hein. Là, ils vont continuer à se battre, ils vont dépenser de l'énergie. Hein. Et quand on leur dit « Ah, mais pourquoi vous ne soutenez pas le combat contre bas élèves ?»« mais si, nous le soutenons. » Non, il y a soyons clairs, il y a un encouragement à le faire, mais jamais le syndicat ne s'est prononcé clairement contre bas élèves. Pourquoi? Parce que s'il le faisait, quand il irait rencontrer Luc Châtel, il trouverait la porte fermée. Enfin, fermée, à demi ouverte. Mais, disons, il ne serait pas reçu avec les mêmes attentions dans les palais gouvernementaux. Voilà.
Mais je pensais que tu allais nous définir un petit peu individualisme, individualité, pour bien nous transmettre ta révolte contre cette prise de position.
Mais disons que c'est quelque chose de tout à fait grossier, leur jugement, quoi. Ils confondent l'ego et ce qui fait la source de la conscience individuelle, de la révolte. Voilà, c'est tout. Moi, je n'ai pas envie d'en dire plus là-dessus.
Si je peux mêler mon grain de sel.
Mais bien sûr.
Toute action collective part de l'individu.
Voilà.
C'est un choix individuel.
Bien sûr.
Voilà.
À mon avis, leur supercherie intellectuelle, voilà, ça veut dire qu'ils font pas l'amalgame, ils veulent pousser à l'amalgame, consistant à dire que penser par soi-même égale égo. Et c'est ça qui est terrible, parce que je crois que à tous les niveaux, les hommes politiques ont recours à cet artifice de prestidigitateur idéologique.
Oui, c'est super.
Être authentique, penser par soi-même, c'est être égoïste. Mais non, mais oui, il y a deux formes d'égoïsme. Il y a l'égoïsme de la cellule, de chacune des cellules de notre corps qui pense à notre survie, et il y a l'égoïsme barbare qui consiste à asservir. Bon, enfin, moi, je m'étends pas là-dedans.
Non, d'accord, mais bon, c'était quand même pour qu'il y ait une petite illustration de ce qui t'insurgeait. Voilà, ce contre quoi tu t'insurgeais.
Alors, je crois que, André, tu veux apporter par rapport au mouvement des.
Oui, simplement, pour ceux que ça intéresse. Alain Refallot, qui est un des principaux désobéissants, vient de publier un bouquin qui s'appelle « En conscience, je refuse d'obéir ». C'est édité, la maison d'édition, c'est « Des îlots de résistance ». Et bon, ben voilà, 16 €, 256 pages.
D'accord. Bien.
Philippe ?
Oui. Alors, moi, je voulais vous parler du numéro spécial sur les alternatives au capitalisme et à la social-démocratie. Que de grands mots. Je vous recommande spécialement ce numéro. Vous y trouverez un article de Jean-Pierre Garnier appelant à préférer l'anticapitalisme à l'altermondialisme. Ce qui, pour moi, n'est pas un appel à voter pour un prétendu parti anticapitaliste.
Pour Jean-Pierre Garnier.
Les deux.
Moi, ce que j'ai compris par rapport à cet article, c'était pas une invitation à aller voter. Voilà. Donc, ce parti anticapitaliste qui participe aux guignolesques élections. Un article de Michel Onfray, qui appelle de ses voeux un capitalisme libertaire, même si pour moi ces deux termes sont antinomiques, un changement vers un monde libertaire devant se débarrasser du carcan capitaliste. L'article mérite quand même une lecture. Un article de Tom Holterman appelle à l'auto-organisation, l'entraide et l'auto-activité à travers des alternatives au capitalisme. Cet article remet au centre les notions d'expropriation, de consensus et de rejet des systèmes d'ordre. Johann Enoch, quant à lui, met l'accent sur la destruction intégrale du capitalisme, sur la nécessité de partager nos savoirs et méthodes au service de tous et toutes. Samuel Préjean revient sur les échecs subis lors des multiples luttes, excepté celles contre le CPE, et appelle à un changement global ancré dans le mouvement social et liant classe ouvrière et moyenne. Germinal parle d'autres façons de travailler à travers l'autogestion, les SCOP ou les AMAP, où la relation humaine sans contrainte est remise au centre des échanges. Pierre Thiessé en appel à préférer les médias alternatifs, journaux, radios, pour sortir des discours complices du système des médias dits officiels. Paria s'intéresse aux contre-cultures nées dans les années 70 avec le mouvement punk et s'étend aujourd'hui grâce aux nouveaux moyens de communication. Deka nous invite à sortir de notre connerie quotidienne. Audrey Philibert, enfin, propose de nouveaux systèmes pour remplacer le capitalisme, mettant au centre le citoyen et les échanges démonétisés.
Il faut donc lire Le Monde libertaire. Olé ! Voilà.
Bon, moi, je voulais revenir sur la question de la protection sociale qui était donc une nouvelle fois attaquée, on en a parlé tout à l'heure. Et donc à l'occasion de, d'un rapport du comité d'orientation des retraites qui sortait son 7e rapport, ben, je pense que c'était hier, le 27 janvier. Un certain nombre d'attaques en disant que la réforme des retraites, nous allons nous y attaquer. Il n'y a pas d'autre solution et nous allons parvenir à régler la question plus rapidement et plus aisément que beaucoup ne le pronostiquent. Voilà donc ce que dit Sarkozy. Enfin, c'est présenté, résumé son propos comme ça dans le Canard enchaîné. Et donc, ce rapport étudie donc des nouvelles mesures de retraite qui appelleraient des retraites notionnelles ou par accumulation de points. Et donc, on fait le constat que plus personne ne défend vraiment la retraite par répartition suite à la crise des placements boursiers, même si pour autant les traders continuent à être re-rémunérés après que la contribution de chacun ait permis de relancer la machine bancaire. Et donc ce qu'on nous dit, c'est que bien globalement, il y a une espérance de vie qui est plus longue et que donc il y aurait une certaine logique à ce que l'espérance de retraite reste la même. Et que donc si on retrouve, se rapproche de ce qui était autrefois, eh bien, casser sa pipe peu de temps après avoir pris la retraite. Et donc c'est cet horizon-là que l'on nous propose. On évoque l'idée que pour certains, 60 ans est un bel âge pour travailler encore. Mais la question, c'est, on voit bien, c'est qui est-ce qui s'attache avec véhémence à ces emplois. C'est vrai que l'on voit sur les chaînes de télévision des vieillards tonitruants qui prétendent mourir accrochés au micro. Bon, nous, on n'est pas payés ici, mais je pense pas que c'est ce qu'on fera. Et en tout cas, voilà, des Drucker, des autres animateurs, des docteurs Beaulieu qui ont passé des 90, comme diraient nos camarades belges, et qui, eux, ben, se veulent un exemple. Et c'est bizarre, dans le monde du travail, beaucoup cherchent, mais comment on peut faire pour avoir une mesure pour partir plus tôt et bénéficier d'une retraite anticipée? Et donc c'est plutôt la question qui se pose, et on s'étonnerait dans certains milieux, effectivement, de cette différence d'attente et d'espoir du travail. Alors, on nous dit, et bien là, on revient sur ces trous malheureux, la protection sociale coûterait cher, et donc on va bien regarder, effectivement, mais là, on voit évidemment que les inégalités ne cessent d'exploser. On parlait des traders qui reprenaient leur conquête des sommets des primes, et de plus en plus de fruits du travail est déduit de la cotisation. Alors soit ce sont des formes de primes, soit simplement de la rémunération, comme disait Proudhon, de l'aubaine, ne fait pas du tout l'objet d'une moindre cotisation, alors qu'elle est évidemment le fruit du travail. Et donc, on entend là, je sais même plus son nom, mais quelqu'un qui a droit à des retraites chapeaux, et puis pour les autres, eh bien, ça serait des retraites peau de chagrin. On voit que l'habillement n'est pas le même pour tous, quoi.
Proglio,
ouais. Un cumuleur en plus. Bon. Donc la question, c'est bien évidemment en même temps que on va dire, il y a pénurie de travail. On n'arrive pas avec ce qu'on a à donner à manger à tous. Il faut que chacun fasse un effort de travailler, mais c'est pas le cas. Le chômage est en train d'exploser, et donc quelque part, rester un an de plus au travail, c'est enlever un an de plus à ceux qui en recherchent. Alors, dans la situation actuelle, quand on prend un petit bout des mesures pour dire on va gagner quelque chose, eh bien, on sait très bien que c'est pour grignoter avant de casser ce système de protection. Alors évidemment, on peut débattre, on peut parler de tout, on peut tout poser à plat lorsqu'on a des gens avec qui on dialogue et qui sont de bonne foi. Et donc, si l'on posait toutes les richesses produites, on pourrait discuter de les répartir, etc. C'est comme... on peut parler d'identité sous toutes ses formes avec des philosophes, mais certainement pas avec des chefs d'État. Et donc, en l'État, et donc c'est, faut l'espérer, les mobilisations qui vont se faire, eh bien c'est de dire qu'effectivement ces choses-là ne sont pas négociables, et peut-être qu'effectivement on pourra, à travers les retraites, eh bien faire émerger l'idée que, une part de la vie qui ne soit plus soumise à l'aliénation du travail, eh bien c'est ça qui fait un modèle, et que c'est effectivement ça que l'on a envie de gagner, et que le jour où on sera sur le pavé, alors qu'on a l'expérience de l'année passée où on est descendu faire trois petits tours et puis s'en vont, et puis le troisième tour et puis plus personne, eh bien que le jour où on sera là, on a envie de se dire des choses ensemble, d'y rester, pas nécessairement de marcher, mais en tout cas de plus bouger et de s'asseoir dans la rue le jour où on y sera tous. Voilà.
Merci Philo.
Et maintenant vient le moment solennel de l'agenda.
Ouais. Et alors, qui le fait? Alors, trop tard. Ah, si, on a 3 minutes.
Oui, oui.
Alors, des dates.
Je crois que Philo a des papiers, non?
Qui a des dates? C'est ça la question.
Moi, j'en ai qu'une, c'est de samedi 30 janvier 2010 à Arcachon, un appel de la Coordination Santé Solidaire de Gironde pour un rassemblement pour défendre et améliorer l'hôpital d'Arcachon, contre la découpe, samedi 30 janvier 2010. Donc j'ai dit, à la jetée tire à 13h, et devant la clinique de 14h à 16h, c'est à Arcachon, il y a un départ à 11h, près de la gare Hôtel Ibis.
Bon, oui. Ça, les Arcachonnais, et plus.
D'autres rendez-vous.
Une deuxième date, peut-être?
Non.
Ben, écoute, moi bon, non.
Non, non. Vas-y.
Le 10 février, peut-être?
Alors, qu'est-ce qu'il y a?
Le 10 février, il y a le... D'accord. Il y a Sakina qui saura à quelle sauce
elle, va être
elle a été mangée.
Eh oui, bien sûr. Tout à fait.
C'était un procès qui avait eu lieu le 13 janvier pour appel au boycott des produits israéliens. Et donc, on aura le verdict et on pourra en parler le 11 février à la prochaine émission.
Prochaine D'accord. émission où nous vous donnons rendez-vous avec Proudhon, avec Gauguin. Et puis, avec l'actualité aussi, bien
et
sûr.
Et avec le ML.
Avec le ML.
Les plumes du ML.
Peut-être avec Sakina, puisque le...
Peut-être aussi.
Voilà.
À voir.
En tout cas, à la prochaine.
Et bonne fin de soirée.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonne nuit à tout le monde.
من دوك لغنى نبرا